Ok. Bonjour, je vais commencer. Est-ce que vous pouvez présenter votre recherche académique et quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux problèmes féministes?
Bien, merci. Alors, je vais quand même résumer cette carrière, parce que je viens de terminer ma carrière. Ma carrière a commencé en 1966 et j'ai pris ma retraite en juillet 2007. Dans ma carrière académique, j'ai fait des études de sociologie et de philosophie, mais j'ai surtout terminé par un doctorat en sociologie et une habilitation à diriger des recherches en sociologie également. Alors, la différence entre ces deux doctorats, parce que le premier j'ai soutenu en 1969, pardon, le thème de la recherche portait sur les élites sénégalaises. Et parce que dans mon département de sociologie, nous avions un professeur qui faisait une étude des catégories sociales. Alors, on avait fait les paysans, les ouvriers, et moi, je devais faire l'élite, disons la classe supérieure. Et dans l'élite, j'avais choisi les fonctionnaires de l'État du Sénégal, parce que les fonctionnaires étaient, à la fin de l'époque coloniale et au début de l'indépendance, au sommet de la hiérarchie administrative et politique. La majorité des gens qui avaient été à l'école, qui avaient fait l'école primaire, secondaire et l'université, trouvaient un emploi prêt tout de suite dans l'administration. Parce que c'était, l'administration avait servi de socle de promotion des élites à l'époque coloniale. Parce qu'à l'époque coloniale, les Français avaient formé des administrateurs, des médecins et des gens dans les différents emplois administratifs et techniques. Donc à l'indépendance, comme beaucoup de Français étaient partis, parce que la France retirait quand même pas mal de ces gens, il y a eu tout de suite des postes qu'il fallait remplir dans toute l'administration, l'enseignement, la santé, les travaux publics, etc. Donc beaucoup de gens qui avaient fait des universitaires sont presque tous allés dans la fonction publique. Très peu d'entre eux sont allés dans le privé, comme dans les banques ou les industries. La majorité avait des places presque toutes ouvertes dans l'administration. Donc c'est ça que j'ai fait ma thèse. Mais en 1998, quand j'ai soutenu mon deuxième doctorat, qui est l'habilitation à diriger des recherches, ça portait sur les femmes. J'essayais de montrer dans cette habilitation qui comprend l'ensemble des travaux que l'on a publiés au cours de sa carrière, mais il y avait également un volume qui est consacré à la synthèse des travaux et à la perspective que l'on a eue des travaux que l'on a menés. Alors dans ce travail, moi, je montrais comment je m'étais intéressée à la sociologie du développement en traitant de questions d'abord de l'élite, donc la formation de l'État, de la formation d'une élite politique et administrative. Après, je m'étais occupée de questions d'éducation, d'emploi, d'urbanisation. Comment j'étais arrivée progressivement, à partir des années 80, à m'intéresser à la question des femmes, parce que c'est également l'époque où surgissent dans le monde toutes les études féministes. Le mouvement féministe qui prend beaucoup d'ampleur dans les années 60 commence vraiment à prendre une ampleur dans ma région, moi, en Afrique subsaharienne, à partir de l'année internationale de la femme et de la décennie mondiale des femmes, avec les trois grandes conférences mondiales des femmes à Mexico en 1975, à Copenhague en 1980 et à Nairobi en 1985, suivi en 1995 de Beijing plus 10 et en 2005, non, Beijing plus 5, plus 10, oui. Et puis la conférence SL de Beijing plus en 2005 et une conférence à New York. Et là, c'est tout un, il y a quand même tout un parcours. Donc, j'explique comment s'est fait ce parcours. Bon, j'avoue que, quand même, j'ai commencé à travailler un peu sur les femmes, mais pas beaucoup. Mais certainement pas dans une perspective féministe, mais beaucoup plus dans une perspective culturaliste, en disant, mais les femmes dans la société africaine, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs positions dans la société. Et c'est en 1986, j'ai été invitée à enseigner aux États-Unis comme Visiting Scholar Fulbright dans un programme de Women Studies. On m'a dit, bon, venez parler des femmes africaines. Bon, j'ai un peu hésité en disant oui, mais c'est pas ce que j'enseigne habituellement, mais ça m'intéressait et j'étais curieuse. Donc j'ai accepté, j'allais passer un an aux États-Unis dans ce qu'on va appeler le Great Lake College Association, où il y a plusieurs universités, parce que Oberlin, Ohio Wesleyan, tout ce groupe d'universités. Et là, quand même, j'ai été dans les programmes de Men's Studies, et tout d'un coup, j'avoue que ça a été vraiment une découverte pour moi, de penser qu'il y avait une discipline qui pouvait être là, et qu'il y avait un secteur de réflexion. C'est-à-dire, je savais bien qu'on pouvait travailler sur les femmes, parce qu'on peut travailler sur tout. Mais la manière dont les Women's Studies étaient structurées était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Donc pendant un an, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, lu beaucoup de littérature produite sur les femmes dans le monde, et puis notamment sur les femmes en Afrique, hein, parce qu'il y a beaucoup de travaux faits par soit par des Américaines, soit par des Africaines anglophones. Donc il y avait, et comme c'était vraiment, on était à la fin de la décennie mondiale des femmes, où il y avait beaucoup de choses qui avaient été discuter. Tous ces débats m'ont vraiment réorienté totalement dans ma carrière. Quand je suis rentrée à l'Université de Dakar, j'ai voulu ouvrir un programme d'études sur les femmes. Bon, bien sûr, mes collègues ont refusé. Ils n'ont pas refusé que j'enseigne, mais ils ont refusé que je crée le programme. Donc j'ai donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cours gratuit sur les femmes en Afrique. Et puis après, ça c'était en 1988, pardon, et à partir de 1992, j'ai fait un cours de sociologie de la famille et des rapports sociaux de sexe. Et après, je me suis quand même beaucoup plus engagée dans les questions sur les femmes, et je commençais à mener beaucoup plus de recherches. Alors ça, c'est une première voie. Mais la deuxième voie qui m'a fait vraiment prolonger la recherche académique sur les problèmes féministes, c'est avec le CODESRIA. CODESRIA, ça s'écrit C-O-D. Bon, je vais écrire après. En fait, le CODESRIA, c'est un conseil qui a été créé par l'Union africaine, par les organisations de l'Unité africaine, pour le développement des sciences sociales en Afrique. Alors, c'est un programme qui a été suscité par la réflexion d'intellectuels de gauche, hein, et qui ont mis à l'Organisation de l'Unité africaine, pour avoir un statut diplomatique et un statut d'indépendance par rapport aux autres pays. Si vous êtes dans un pays et que vous êtes Nations Unies ou organisation internationale, aucun chef d'État ne peut vous imposer sa pensée. Et le siège a été installé à Dakar, parce qu'à Dakar, il y avait également quand même une assez grande liberté académique qui n'existait pas forcément dans les autres pays. Donc avec Samir Amin, l'économiste égyptien, et puis d'autres intellectuels africains, le CODESRIA a été créé. Alors en 1980, donc je connaissais le CODESRIA, j'étais membre du CODESRIA comme universitaire en poste à Dakar, mais j'ai rencontré Aïcha Imam en 1990 à Dakar, qui voulait faire une conférence pour introduire la question des femmes et la question du genre dans les sciences sociales en Afrique. Elle m'a demandé de collaborer à l'organisation de cette conférence intitulée Gender Analysis and Social Sciences in Africa. Donc j'ai participé avec Aïcha Imam et Amina Mama à l'organisation de cette conférence, et nous avons sorti un ouvrage qui est d'abord les actes du colloque qui ont paru d'abord en anglais, parce qu'Aïcha Imam et Amina Mama sont anglophones, en 1997. Et après, j'ai obtenu du CODESRIA que la version française soit traduite Donc j'ai fait traduire et je l'ai édité. J'ai corrigé les traductions. Et c'est paru ce titre « Sexe, genre et société, deux points, engendrer les sciences sociales en Afrique ». Donc voilà la manière dont s'est constituée ma carrière et mon intérêt pour les questions féministes. Mais je crois que c'est vraiment, vraiment profondément lié à l'avènement de la décennie mondiale des femmes qui s'est propagée partout. C'est-à-dire que aussi bien le fait que les Nations Unies aient mis cet agenda à l'ordre international a obligé pratiquement les États à avoir des structures en direction des femmes et surtout à aider à l'organisation de conférences où les différents mouvements de femmes se sont rencontrés. Ce n'est pas les Nations Unies qui ont fait émerger la question féministe, hein, mais les Nations Unies ont aidé, en tout cas en Afrique, à faire que, en organisation des différences partout dans le monde, à pousser aussi bien les organisations internationales que les agences gouvernementales et que toutes les autres fondations, genre Fondation Ford et toutes les fondations qui sont créées dans le monde et qui finançaient des projets de réflexion, ça a vraiment permis de faire avancer la question. Et le fait d'avoir rencontré des féministes du monde occidental, mais également des féministes en Asie, en Amérique latine et en Afrique, a quand même forgé de manière extraordinaire mon expérience. J'ai appartenu d'ailleurs pendant une dizaine d'années à Dawn. Dawn, c'est un réseau de féministes des pays du Sud, donc Asie, Afrique, Amérique latine et Caraïbes. C'est Development Alternatives with Women for a New Era. Et qui est un réseau féministe qui fait surtout de la réflexion, de la recherche théorique et de la formation des générations suivantes aux questions féministes, mais avec une perspective des femmes du Sud. Et alors c'est Aïcha Imam qui m'a amené à Vloom en me disant, bon, il y a un réseau féministe autour des questions des femmes et de l'islam. Et ça, c'était bien, parce que je travaillais déjà sur les femmes. Hein, et je pense que femmes et religion, surtout islam dans nos pays, c'est vraiment un domaine très important.
Et c'était quand?
Alors, Vloom, ça devait être en 1980, mais 92, hein, c'est juste après la... Vloom, c'est à partir des années 93-94, mais on a fondé... Alors, on a fondé une branche de Vloom en 96 ou 97. Qui s'appelle le Greffels.
Et quel est votre poste dans les...
Alors aujourd'hui, dans le réseau de Vloom, je suis aujourd'hui International Coordinator de AECO, ici à Londres. Mais à Dakar, je suis également membre du Board of Directors de Vloom. Et à Dakar, je suis la présidente du Greffels. À la Greffels, c'est le groupe de recherche sur les femmes et les lois au Sénégal.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, quelle est la priorité la plus importante pour Vloom en ce moment?
Je pense qu'il y a deux grandes priorités. Bon. Alors maintenant, je vais dire pour moi. Il y a une première, parce que Vloom, en fait, est un réseau. Groupe n'est pas une association, c'est un réseau de plusieurs associations qui appartiennent à d'autres réseaux, mais aussi à Vloom, autour du thème commun de l'impact des lois sur les femmes, de l'impact des lois d'inspiration musulmane sur les femmes dans le monde. Alors, ça peut être sur les femmes dans les pays musulmans, comme ça peut être sur les femmes en Occident. Donc ça, c'est très clair dans la tête de tout le monde. Donc il y a une première priorité, c'est de renforcer la coordination internationale. Parce que la coordination internationale, c'est elle qui permet aux différents membres du réseau de travailler ensemble. Le réseau est composé, on a divisé le réseau en deux grandes régions. Il y a une région qui est l'Afrique et le Moyen-Orient, Africa and Middle East, donc qui est EMI. la coordination régionale de EMI a été pendant plusieurs années à Lagos avec Baobab Center for Women. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, la Baobab a rendu la coordination. Et aujourd'hui, la coordination est assurée par Greffels, par ce groupe de recherche sur les femmes musulmanes à Dakar. Bon. Et puis, on a la coordination, la région Asie, donc la grande région Asie. Et dans cette région Asie, la coordination est à Lahore, au Pakistan, avec Shakadga. Mais ce qui est important dans ces réseaux, c'est que chaque coordination régionale fédère un peu le travail, essaie de faire des travaux en commun ensemble. C'est-à-dire que chaque groupe, chaque association a son travail, soit son travail personnel, soit le travail qui est le travail sur les femmes et lois dans un pays d'influence musulmane, dans le monde musulman. Mais pour qu'on puisse travailler ensemble, il y a ces régions coordonnées, ces coordinations régionales. Donc l'importance de la coordination internationale à Londres, c'est de faire travailler les deux réseaux ensemble et d'établir des programmes communs qui permettent de faire les choses ensemble, qu'on puisse travailler chacun sur nos thèmes, mais également sur les thèmes qui sont les thèmes fédérateurs. Alors, par exemple, en ce moment, on est en train de faire un programme sur le viol à la demande du Soudan qui dit, mais nous sommes dans un pays en conflit, il y a beaucoup de viols. Or, la charia telle qu'elle est pratiquée au Soudan ne s'intéresse pas au viol. Et il est très difficile de punir les auteurs de viol parce que la loi ne donne pas les dispositions correctes pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, on va faire un projet sur un an où on va faire travailler plusieurs pays de la région, Afrique, Moyen-Orient et Asie, pour voir chacun, est-ce qu'il y a des pays qui ont réformé les lois, il y a des pays qui ont des lois différentes. C'est-à-dire, on va faire ce travail ensemble de réflexion pour pouvoir trouver une plateforme qui va permettre aux Soudanaises de faire progresser leur plaidoyer auprès de leur gouvernement, mais va permettre également à d'autres pays de pouvoir progresser leurs lois. Parce qu'on a tous des pays, des lois avec des problèmes avec nos lois sur le viol. Par exemple, au Sénégal, il y a effectivement le viol est réprimé, mais par exemple, il est interdit d'avorter à la suite d'un viol. C'est-à-dire, si vous attendez un enfant parce que vous avez été violé, vous n'avez pas le droit d'avorter. Alors que l'avortement est légal au Sénégal. Parce que dans l'islam, on peut avorter si la santé de la mère est en danger. Donc vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et, mais c'est bien parce que ça permet de faire des travaux communs, de renforcer, et puis d'avoir des thèmes fédérateurs, et puis de porter des questions qui sont traitées d'un côté et pas de l'autre. Ou bien nous, initier des réflexions sur les autres peuvent nous dire, ben, nous on a fait déjà ça, on va comparer, on va discuter. Donc ça, c'est la première priorité, à mon avis, vu d'ici, hein, c'est de renforcer. Et je pense que la seconde priorité, c'est de renforcer quand même la réflexion au sein, c'est-à-dire aider les réseaux des régions et les associations locales à renforcer les connaissances, les pratiques de plaidoyer. Par exemple, on est en train de prévoir pour 2008 une session de formation sur comment faire les rapports de CEDAW. Vous savez ce que c'est? CEDAW demande, chaque année, demande à un certain nombre de pays de faire l'état de l'avancement des droits des femmes dans leur pays. Bon. Les gouvernements font des rapports un peu n'importe comment. Les associations font également des rapports parce que tout le monde est invité, n'importe comment aussi. Hein? C'est-à-dire pas selon des règles qui permettent de faire avancer vraiment la question. Donc on va faire un séminaire en 2008 sur la manière pour les associations de la société civile de rédiger ou de faire pression sur leur gouvernement sur la rédaction de ces rapports de CEDAW. Et puis il y a d'autres questions hein, qu'on peut faire ensemble. Ok.
Merci beaucoup.
Voilà. Donc mon poste, c'est International Coordinator.
Ouais.